Bonjour à tous, au micro Sylvie Ligi qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et G-Call. Nous allons aujourd'hui parler des attaques contre l'état de droit en Israël avec notamment la nouvelle loi relative aux médiateurs judiciaires et l'ouverture d'une procédure de limogeage contre la conseillère juridique du gouvernement. Nous évoquerons peut-être aussi l'éviction de Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, par le nouveau chef d'état-major. Nous sommes aujourd'hui en ligne avec Arié Avidor, qui est un ancien ambassadeur d'Israël en Europe et en Afrique. Arié Avidor a fait partie de la mission préparatoire de la conférence de Casablanca sur le Moyen-Orient. Il a été ambassadeur chargé des relations avec le Conseil de l'Europe à Strasbourg et aussi chargé de la négociation sur l'Union pour la Méditerranée. Aujourd'hui, Arié Avidor est consultant politique dans les médias israéliens et internationaux. Bonjour Arié Avidor.
Bonjour.
Tout d'abord, monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre invitation.
Donc, merci pour votre invitation.
Je disais donc que mardi dernier, le 4 mars, la loi modifiant la procédure de nomination du médiateur judiciaire a été votée. Le médiateur judiciaire, c'est celui qui instruit la plainte d'un citoyen contre un juge. Jusque-là, le médiateur judiciaire était nommé par la commission de nomination des juges avec l'assentiment du ministre de la Justice et du président de la Cour suprême. Cette commission était pourvue d'un système d'équilibrage, de sorte qu'il ne puisse y avoir aucune majorité automatique. J'ajoute que les médiateurs, qui sont d'anciens juges de la Cour suprême, à la retraite, sont dotés d'une vaste expérience professionnelle. Et donc la loi qui a été votée la semaine dernière crée de toute pièce une commission de nomination du médiateur dans laquelle la coalition au pouvoir disposera de la majorité. Dans ce contexte, Arié Avidor, est-ce que le médiateur pourra encore conserver son indépendance?
Vous avez pratiquement tout dit, hein, étant donné qu'il est désormais, nommé par une commission majoritairement du gouvernement. Il aura à répondre. Voilà, ce sera un fidèle du gouvernement par principe. Et c'est cela. C'est déjà un déséquilibre du régime, démocratique et de l'état de droit.
Mais comment ça s'exprime, cette fidélité dont vous parlez?
On nommera désormais une personnalité qui sera... Et il y a même parmi les anciens juges à la Cour suprême, il y en a qui sont plus ou moins de droite, d'extrême droite même, qui sont sensibles aux arguments du gouvernement, d'autant plus sensibles qu'ils auront été nommés par celui-ci avec une majorité des représentants du gouvernement au sein de la commission de nomination. Alors vous pouvez imaginer que ce sera le départ d'une véritable chasse aux sorcières à l'encontre des juges, et notamment des juges de la Cour suprême, de la part de ce médiateur politisé.
Donc pour vous, il y a une politisation claire et nette de cette fonction.
Bien entendu, ça fait partie de l'offensive générale, de l'agression même, je dirais, de la part de ce gouvernement contre l'état de droit. Il veut nommer des juges, il veut changer les règles du jeu démocratique, et peu importe. Hein. La guerre n'a rien changé à sa volonté, elle a simplement ralenti pendant quelques mois. Et les manœuvres auxquelles on a pu assister de sa part.
Pour vous, les tentatives de coup d'État qu'il y a eu, de coup d'État contre le renversement du régime judiciaire qui a débuté dès le 4 janvier 2023, pour vous, ça ne s'est jamais arrêté?
Ça s'est arrêté quelques mois à partir du 7 octobre, puisqu'il y avait évidemment d'autres priorités à l'ordre du jour. Mais même durant cette guerre, l'offensive a repris de la part des éléments du Likoud ou de l'extrême droite qui sont très coordonnés à cet effet.
Alors, je me vois obligée d'aller dans votre sens, puisqu'on a assisté ces dernières semaines à un déferlement d'attaques verbales particulièrement violentes contre la personne de Mme Ghali Bahar-Avniara, qui est conseillère juridique du gouvernement, ou également procureure générale, on va y revenir. Voilà. Tous les ministres, Amsalem, Karis, Motrich, Levin, on a assisté à un concert d'insultes, de remarques désobligeantes et d'accusations infondées. La députée Tali Gottlieb, qui n'a pas été la dernière à déverser son venin, il disait « la conseillère judiciaire a du culot ». Quand elle a pris son poste, on lui a dit qu'elle rentrerait vite fait à la maison. Elle détruit la démocratie, disent-ils, et Levin parle de son inconduite et de sa dépravation. Donc, ils veulent la congédier et la procédure a déjà été engagée puisque la lettre officielle a été envoyée. Elle a été signée par 13 ministres. Alors, avant peut-être de réagir à ce que ça représente, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, si vous le voulez bien, rappeler quel est le rôle, quelle est la fonction du conseil juridique du gouvernement, du conseiller juridique.
Alors, dans le système constitutionnel israélien, même sans constitution, il y a des lois et organiques. Le rôle de la conseillère du gouvernement et de la procureure générale d'État, c'est ça également, c'est de veiller à ce que le gouvernement poursuit sa politique dans le respect total des lois. Des lois et de la Constitution. Alors, elle est évidemment très gênante pour ce gouvernement qui entend purement et simplement changer de régime, passer d'un régime démocratique et qui respecte l'état de droit, passer à un régime autocratique sur les modèles que Netanyahou préfère. Par exemple, la Hongrie, à un moment donné c'était la Pologne, mais avant le changement de gouvernement, etc. Et il y a même un développement dans cette affaire Bahar-Avniara. Je viens d'entendre aux informations de 14h, c'est-à-dire
14h
de Paris, oui, que voilà, le ministre Kerry présentera à la prochaine réunion du gouvernement, c'est-à-dire dimanche prochain, le projet de non seulement de la destituer, mais en attendant la fin du processus de destitution, de la déclarer hors d'état d'opérer. C'est-à-dire que dès le moment que le gouvernement serait intervenu, elle ne pourra plus rien faire. Je doute que cela passe aussi facilement, mais en tout cas, la volonté de la part du gouvernement Netanyahou, la volonté y est, parce que rien ne se fait évidemment sans la décision de Netanyahou lui-même en l'occurrence.
Et alors, je suis très surprise, en réalité pas surprise, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Mais parce que la procédure, en fait, de limogeage d'un haut fonctionnaire, puisqu'elle est haut fonctionnaire, en fait, est-ce qu'on peut la limoger comme, par exemple, Netanyahou l'a fait pour Yoav Gallant, le ministre de la Défense ?
C'est pas aussi simple. Elle est haut fonctionnaire. Elle fait également partie du système juridique. On ne peut pas. C'est comme si on voulait limoger un juge suprême simplement pour une simple volonté politique. Alors, je reprends donc le rôle de la conseillère juridique du gouvernement et de veiller au respect des lois constitutionnelles par le gouvernement. Et elle est évidemment opposée à tout changement de régime, ça va de soi. Mmh. Et là, c'est l'une des dernières gardiennes, je dirais, des institutions. On peut la représenter comme la personnalité qui a le doigt sur la fuite du barrage, là. Et sans elle, ce sera la catastrophe et l'inondation. Oui, voilà. Elle a autorité. Il y a bien des domaines, évidemment, où le limogeage de la conseillère juridique arrangerait Netanyahou. D'abord, elle a autorité sur le parquet. Elle peut orienter, elle peut même annuler les enquêtes en cours, ou même elle peut mettre fin, par exemple, à son procès, en arrivant à la conclusion, en faisant arriver le parquet à la conclusion que voilà, il n'y a plus lieu de poursuivre les démarches entreprises. Et il y a la question de la nomination et la question de l'adoption de la loi sur l'exemption des ultra-orthodoxes du service militaire. Elle a également elle a un poids prépondérant en la matière, en donnant son avis sur la question, qu'elle a déjà donnée d'ailleurs. Pour elle, chacun doit servir, c'est la loi, chacun doit servir sous l'uniforme. Et on doit poursuivre tous ceux qui refusent de le faire. Alors que le gouvernement, Netanyahou, s'est engagé dans le cadre des accords de sa coalition, s'est engagé auprès des ultra-orthodoxes, les exempter de tout service militaire ou de toute autre forme de service civil ou civique.
Alors,
il y a bien d'autres choses à l'ordre du jour pour lesquelles elle est essentielle. Alors évidemment, imaginez un instant qu'on la limoge, qu'on arrive à la limoger, qu'on mette à sa place une personnalité aux ordres qui se pliera à toutes les fantaisies et à toutes les demandes de la part de Netanyahou et de son gouvernement, et tout passera, et tout ira très bien pour le gouvernement en place. Mais je pense que le scénario va être passablement différent. Elle est, avec la Haute Cour, je dirais, la dernière instance gardienne des institutions.
Et alors, les enjeux donc pour le gouvernement en place, là, pour la coalition au pouvoir. Alors, déjà, Yariv Levin, qui est donc le ministre de la Justice, a déposé cette action pour le motif formel, puisqu'il y a quelques motifs possibles. Donc, pour celui qui vient en tête de liste, divergence d'opinion substantielle et prolongée. Donc ça, c'est le motif engagé de cette procédure qui est engagée. Donc réellement, les motifs, c'est ceux que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire le procès de Netanyahou, c'est-à-dire la conscription. Est-ce qu'il y a d'autres... Quels sont les enjeux de cette action politique ?
Mille et un détails. Chaque manœuvre de ce gouvernement, il y a quelque chose de louche. Par exemple, le dernier incident, c'était sur la nomination du commissaire à la fonction publique. Alors, on a nommé un commissaire à la fonction publique. Pour l'instant, on ne l'a pas nommé définitivement. C'est un remplaçant, mais c'est quelqu'un du Likoud. Hein. C'est quelqu'un qui est aux ordres. C'est-à-dire que la fonction publique sera maintenant également aux ordres de Netanyahou et du Likoud. Alors, Mihara Bahrav s'est opposée. Très justement d'ailleurs, en interdisant à ce commissaire à la fonction publique faisant fonction, en lui interdisant même l'accès aux instruments tels que les bases de données de la fonction publique en Israël, l'ordinateur et tout ça. Et c'est précisément sous ce prétexte que le ministre Kerry, aujourd'hui même, a déclaré vouloir, la semaine prochaine, mettre à l'ordre du jour du gouvernement A, son limogeage à terme, mais B, sa mise hors de fonction, son impossibilité de fonctionner immédiatement. Voilà les derniers développements en la matière.
Voilà, mais enfin, même une décision pareille, même si elle est prise dimanche prochain, est-elle légale? Est-ce que la Haute Cour, la Cour suprême pourra l'accepter? Enfin, comment? Parce que c'est quand même très surprenant qu'un ministre puisse, enfin, un conseil des ministres puisse comme ça mettre un terme au travail de.
Oui, ils ont préparé leur fête. Ils ont préparé un dossier noir, entre guillemets,
oui,
sur les actes de la conseillère. Et en fait, tout ça, c'est simplement le fait que sur des points importants, légalement et juridiquement et constitutionnellement, elle prouve au gouvernement que l'action intentée est, va à l'encontre des lois. Alors que on cite par exemple que, à côté de cela, elle a approuvé des dizaines, voire des centaines de décisions du gouvernement sans s'y opposer systématiquement, du moment qu'ils étaient dans le cadre de la loi.
Voilà, en fait, son rôle, c'est le contrôle de légalité, c'est-à-dire que les lois et les nominations doivent être conformes.
Exactement.
À la loi.
C'est la Cour constitutionnelle, c'est la Cour, c'est le rôle de plusieurs institutions françaises du genre.
Voilà, mais elle ne fait pas de politique, quoi.
Elle ne fait pas de politique, c'est une légiste, c'est une...
Une juriste, en fait.
Une juriste, elle fait son travail purement et simplement.
Voilà. Est-ce que, devant ce panorama qui est quand même un peu ahurissant, est-ce qu'on peut terminer sur une note un peu optimiste, quelque chose qui serait encourageant, un peu plus rose pour
nous?
Oui,
je n'ai pas terminé. Je n'ai pas répondu totalement à votre question.
Pardon.
Je pense que si le gouvernement prend une telle décision dimanche prochain, je pense que ce sera sous 24 heures ou 48 heures, ce sera remis en cause par la Haute Cour.
Mmh.
Et l'importance donc, dans le même contexte, pour le gouvernement, à partir des semaines qui viennent, des jours qui viennent même après, de faire adopter leur nouvelle loi sur le changement de la Cour de nomination des juges, du comité de nomination des juges, de changer exactement de la même manière de changer la manière dont les juges seront nommés.
Donc, si je comprends bien, en fait, c'est cette commission de nomination des juges qui est un cheval de bataille pour cette coalition.
Oui, c'est la composition de la commission de nomination des juges qui décidera du caractère de la Haute Cour, de la même manière que ce qui s'est passé aux États-Unis avec les juges d'ultra-droite qui avaient été nommés à l'époque sous le premier mandat de Trump. Ici, tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est un modèle pour la droite et pour l'extrême droite israélienne. Et le retour de Netanyahou, sa récente visite à Washington, n'a fait que le renforcer. Que maintenant, voilà, l'atmosphère est telle aux États-Unis, ailleurs dans le monde, que tout est permis. Ici aussi, on peut repartir de plus belle. Voilà, je pense, ce qui les anime également. Mais je veux, encore une fois, je veux rester confiant. Ce pays est fondamentalement démocratique. Il est fondamentalement attaché à ses valeurs, aux valeurs d'un état de droit. Et rien de tout cela ne passera. Je pense qu'on descendra dans la rue, même s'il le faut, par des centaines de milliers ou à des millions. Hein. Mais ça, on évitera de le changement de régime vers un régime autoritaire, une parodie de démocratie comme certains voudraient l'instaurer ici. Voilà ce que je pense et oui. Voilà ce que je souhaite.
Merci beaucoup pour ce réconfort, hein, et merci de votre éclairage. Monsieur l'ambassadeur.
Merci.
Shalom.
Shalom.